quelquefois des réalités qui sont intéressantes à manipuler.
Et enfin, tout ça est une question d'imagination et de mémoire pour moi.
Panoramique, une émission sur la musique de film, un dimanche sur deux à 21h sur Radio Campus Paris.
Panoramique. Panoramique.
Panoramique. Une émission qui regarde la musique.
Panoramique.
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 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Panoramique, l'émission qui feuillette les partitions de musique de film avec les doigts gras du nivellement par l'oblique. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à la saison automnale qui vient de débuter, à ce 10e mois de l'année placé sous le signe de la citrouille hagarde et du brouillard crémeux, à ce délicieux compte à rebours qui nous sépare des déguisements ensanglantés et de l'universelle fête des morts. Ah, octobre et sa palette orange et noire, son cortège de squelettes dans les gondoles de l'Intermarché. Ses carrés en perspective, mais aussi ses Christine et ses Freddy, ses requins blancs, ses forces maléfiques, ses douches fatales, ses tueurs en série et ses lycéennes épouvantées. Vous l'aurez compris, cet épisode sera consacré à la musique des films d'horreur. Un genre de film qui ne fait pas l'unanimité, un genre de musique tout aussi particulier, et donc bien sûr une occasion en or massif d'essayer de déchiffrer cette recette mystérieuse. Nous allons piocher dans ce répertoire abondant et passionnant pour dénicher quelques exemples au fil de nos questions de ce soir. Qu'est-ce qu'une bonne BO de film d'horreur ? Y a-t-il des règles à respecter ou à transgresser pour composer une BO de film d'horreur ? Quel rôle la BO joue-t-elle dans un film d'horreur par rapport à une BO de film d'un autre genre ? Quelles sont les pièces incontournables à mettre dans son top 10 et quelle est leur histoire ? La musique de film d'horreur peut-elle et doit-elle exister indépendamment du film ? Et pour ajouter un peu de piment à cette liste d'ingrédients macabres, nous compléterons cette enquête par un petit tour des collections des balades sonores avec la traditionnelle, oui ça fait déjà deux fois donc ça devient une tradition, la traditionnelle sélection de son gérant, monsieur Thomas Changeur. Et si vous haïssez le cinéma italien et les années 70, vous risquez de passer un moment difficile avec cette chronique. Donc voilà, un auditeur averti en vaut deux. C'est une petite technique comme une autre pour pouvoir gonfler les stades d'antenne et me faire bien voir auprès de l'équipe de Radio Campus Paris. Maintenant qu'on a fait le tour du sommaire et qu'on a mis nos maquillages de monstres, le train fantôme peut démarrer, je crois. Siete pronti, allora avanti. Vous écoutez Panoramique sur Radio Campus Paris et on sort le museau de l'année 1978 avec cet extrait de la bande originale du film Halloween. Et pour ceux qui ont reconnu cette célébrissime montée de piano glaçante à souhait. C'était difficile de faire une émission sur la musique de films d'horreur sans commencer par l'un de ses plus emblématiques représentants, John Carpenter. C'est une icône qui a défié les lois de l'esthétique, les lois du marché, mais aussi les lois de l'entendement pendant plus de 4 décennies. Et cinéma indépendant oblige, il a d'ailleurs cumulé plusieurs fonctions dans 95% de ses films. Tour à tour réalisateur, scénariste, producteur, parfois même aussi monteur et compositeur. Une anecdote qui personnellement me fait sourire et qui m'a fascinée quand je l'ai apprise, c'est que Carpenter dissimule en fait très souvent ses multiples casquettes en ayant recours à des pseudos pour ne pas être crédité plusieurs fois au générique de ses films. En fait, il veut pas se taper la honte, il veut pas qu'on se dise « Ah bah en fait le mec a dû tout faire tout seul, c'est un film de clandé avec un budget tout pourri ». Et donc il va finir par s'inventer en fait des alias à gogo, des noms d'emprunt un peu tirés par les cheveux qui sont bien souvent tirés des romans de Lovecraft ou des vieux westerns de son enfance. Et voilà, je trouvais que cette histoire était assez magique et assez touchante. Je pense que les artistes indépendants qui écoutent cette émission le savent très bien. Surtout en 2022, le budget limité conduit souvent à faire beaucoup, beaucoup de choses soi-même. On va parfois, même souvent, bien au-delà des limites de sa propre fonction. On touche à tout parce qu'on peut difficilement déléguer. Et puis au final, on finit par entretenir une relation un peu ambiguë avec tout ce qui relève du contrôle. Et c'est là qu'intervient en général cette espèce de liberté qui est à moitié effrayante, à moitié terrifiante. La liberté du DIY. J'ai moi-même parfois dû résister hyper fort à la tentation de créer une adresse mail ou de signer en mail avec un autre nom que le mien pour demander des contacts ou demander des bookings dans des salles de concert pour faire croire que j'avais une structure qui m'accompagnait et que je démarchais pas les gens en mon nom. Et puis pareil, quand je fais l'émission panoramique et que je dis nous, faut pas se méprendre, hein, c'est pareil, je suis complètement seule. Voilà, voilà. Donc en tout cas, John Carpenter a commencé exactement là-dedans, dans le fait de cumuler plusieurs casquettes. Il a continué très longtemps sur cette voie, puisqu'à l'exception d'un ou deux films plus récents, il a composé lui-même la BO de tous ses films, comme je le disais. En fait, Carpenter, c'est un fils de violoniste. Alors, ça sonne bizarre, mais c'est pas du tout une insulte, parce qu'en fait, son père donne des cours de musique classique à l'université, et puis c'est lui qui va le sensibiliser à la fois aux grands classiques de la musique savante, et puis aussi aux tubes des Beatles, des Rolling Stones. John Carpenter, il vit ses premières émotions de cinéma aussi avec la science-fiction dans le même temps, notamment le film Planète Interdite. Et en fait, quand il est enfant, il va rapidement s'intéresser à ce style de film, au film à frissons, avec des histoires un peu extraordinaires, avec un mélange de fantastique, de films qui pourraient pas se passer dans la vie réelle, et à leur musique. Et en fait, il s'intéresse au film et à l'accompagnement musical comme un tout, sans véritablement faire une hiérarchie entre les deux. Et c'est ce qui peut expliquer une partie de sa démarche, parce qu'en fait, déjà la musique qu'il produit pour ses films est assez référencée. Carpenter, c'est un amateur de musique orchestrale, mais pas n'importe laquelle. Par exemple, il va complètement rejeter un John Williams, avec un lyrisme assez copieux, un grand nombre d'instruments présents, etc. Il se définira d'ailleurs pour présenter comme l'anti-John Williams. Non, lui, vraiment, ce qu'il aime, Carpenter, c'est l'exemple d'un Ennio Morricone, par exemple, qui va réussir à habiller les grands espaces à l'écran, qui va donner un petit peu de panache aux histoires de méchants avec très peu d'éléments musicaux, une grande place laissée au silence. Et puis il aime aussi les grands classiques de Bernard Herrmann, qui était le compositeur fétiche d'Hitchcock, qui a signé beaucoup de ses bandes originales, et notamment celle du fameux film Psychose, dont on reparlera juste après. En fait, Carpenter, il aime bien cette façon de dessiner une ambiance musicale en mettant en avant un instrument en particulier, voilà, tour à tour, tel et tel élément de l'orchestre. C'est des orchestres qui sont assez réduits, souvent des formations de musique de chambre d'ailleurs, avec uniquement quelques instruments, par définition un orchestre qui peut tenir dans une pièce et pas avec une profusion d'instrumentistes 60, 80 ou 100 comme on peut les voir sur les grandes scènes et qui demandent du coup beaucoup plus de budget. Et en fait, Bernard Herrmann, c'est ce qui va aussi inspirer Carpenter, c'est que il va réussir à combiner une forme de répétition, des thèmes qui vont tourner un peu en boucle, qui vont jouer sur les volumes, sur la densité pour créer une impression de suffocation. En fait, John Carpenter, qui a été bien nourri par son père, qui a été nourri au grain par l'écoute de la musique classique, en fait, il va filtrer inconsciemment une partie des règles à transgresser pour composer ses propres BO. Donc, par exemple, dans Halloween, avec cette mesure en 5/4 qui sonne un petit peu irrégulière à l'oreille, en fait, on a l'impression que cette boucle n'est pas finie et qu'elle reprend déjà. Enfin, voilà, c'est un thème qui est un petit peu boiteux à l'oreille. Et en fait, il manipule les lois de l'harmonie et les lois de la métrique avec une apparente simplicité, puisqu'on pourrait se dire, en fait, c'est c'est un thème qui se répète, il a juste juxtaposé les choses. Mais en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a quand même une vraie connaissance profonde de la grammaire musicale qui lui permet finalement d'arriver peut-être plus rapidement aux effets recherchés. Et Carpenter, en fait, c'est quelqu'un qui est un improvisateur, voilà, c'est un instrumentiste qui va très facilement se laisser embarquer, se laisser inspirer par des images. C'est pas du tout quelqu'un qui va se poser à son bureau pour écrire de la musique sur des lignes. D'ailleurs, il sait même pas écrire les notes, je crois que j'avais lu ça quelque part. Il prend vraiment cette habitude de travailler des thèmes une fois que le film est quasiment monté, sur le principe de la boucle, de tout ce qui va être un petit peu entêtant, tout ce qui va créer une impression de répétition et de ce petit décalage un peu boiteux, comme je disais, pour bien épouser le montage et pour traduire en fait en musique ce qui lui semble manquer à l'image. Et comme c'est lui qui réalise, ben, on peut presque dire qu'il s'est laissé lui-même de la place pour pouvoir mettre de la musique à des moments clés de ses films. Donc là, on a parlé de son éducation, on a parlé un petit peu de sa démarche, on a écouté bien sûr cet extrait d'Halloween qui est l'un de ses films les plus connus. On commence à voir un peu se dégager des indices pour notre enquête. Qu'est-ce qu'une bonne musique de film d'horreur ? Et donc on voit déjà que c'est une musique qui joue sur une forme de décalage, qui joue sur le silence. Voilà, ce silence qui, s'il est placé à un mauvais endroit, il peut créer une tension importante, il peut transformer une scène complètement banale en une scène à suspense hyper déroutante. Donc on sait déjà que pour une bonne musique qui fait bien peur, il faut un effet de surprise quel qu'il soit. Un effet de surprise qui peut être rythmique, mais qui peut aussi être harmonique, voire même les deux. Hein, quand plus on est fou, plus on rit. Enfin, plus on flippe. Et quand il y a un écart en fait qui semble, quand je parle d'harmonie, c'est quand il y a un écart qui semble moche ou qui semble pas naturel entre deux notes, ça attire l'attention parce que on sort complètement du confort d'audition. On sent qu'il y a quelque chose d'inhabituel et ça peut participer aussi à la création d'un malaise. Donc par exemple, un autre indice harmonique. C'est pas forcément l'écart entre notes, mais ça peut aussi être la hauteur des notes. Quand quelque chose va devenir soudainement anormalement aigu ou anormalement grave, d'ailleurs c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir des films plutôt au cinéma, ou alors en tout cas avec un très bon système son chez soi, hein, pour être sûr de pas passer à côté de ces petits détails dans la musique. Un grave ou un aigu très très extrême, ça peut avoir un effet beaucoup plus pénétrant. C'est-à-dire qu'un aigu qui est très haut perché, ça va irriter l'oreille, on va presque sortir de la musique pour aller dans le bruit, quoi. C'est quelque chose qui devient hyper organique, qui statistiquement va nous donner envie de gigoter, d'hurler, de s'échapper complètement du son. Et donc c'est le signe que c'est une très bonne technique de film d'horreur, puisque c'est celle que va adopter par exemple Bernard Herrmann pour la fameuse scène de la douche dans le film Psychose, voilà, où Norman Bates arrive dans la salle de bain, ouvre le rideau sur Marion qui est en train de se rincer, et au moment où elle se retourne et où elle tombe nez à nez avec le couteau, là on a un des thèmes les plus célèbres du cinéma qui retentit. On connaît tous cette suite de violons hyper stridents, saccadés, suraigus, qui est presque désagréable à écouter et qui fait peur en fait, très très sincèrement. Et donc on va se faire violence et passer le morceau en entier. Donc si vous écoutez cette émission dans votre salle de bain ou dans une maison hantée, vous pouvez avancer de quelques minutes pour vous épargner l'efficacité redoutable de Bernard Herrmann et de son passage central. A tout de suite et bon courage à tous. Vous écoutez toujours Panoramique sur Radio Campus Paris et nous venons d'angoisser ensemble au rythme des violons du film Psychose, qui est l'une des signatures musicales les plus fameuses de Bernard Herrmann, le compositeur fétiche de Hitchcock. Sans transition, nous poursuivons notre enquête pour comprendre ce qui fait une vraie bonne musique de film d'horreur, qui fait vraiment peur de ouf malade. On a vu qu'il y avait le facteur rythme bizarre, également un facteur harmonie bizarre. Bon, ça commence à se préciser dans le bizarre. En fait, pour faire une bonne BO de film d'horreur, il faut sans doute savoir déjouer les attentes du spectateur. Il faut savoir en fait décevoir ses suppositions quant à la suite des événements du film. Il faut savoir créer un décalage qui va complètement bousculer ses convictions en fait. J'allais faire une parenthèse qui en fait est plutôt un exemple. C'est exactement ce procédé qui est employé par Haneke dans le générique de début du thriller hyper violent Funny Games, quand la petite famille bien rangée, bien blonde, se met en route pour son week-end à la campagne. On a les parents devant, les enfants derrière dans la voiture, ils font des petits blind tests de musique classique sur l'autoradio. Et soudain, on entend qu'ils font irruption, on entend les hurlements enragés du groupe Naked City qui déboule complètement dans cette scène idyllique de départ en vacances. Et en fait, c'est cet effet de décalage brutal qui va nous faire un gros appel de phare pour nous indiquer que cette publicité Kinder Delice va partir complètement en vrille à un moment ou à un autre dans le film. On écoute tout de suite le morceau de 1 minute. Oui, c'est très violent, mais c'est très court, heureusement. On écoute tout de suite ce morceau qui a été choisi par Michael Haneke pour le début de Funny Games. Ça s'appelle Bonehead du groupe Naked City. Voilà, donc un groupe qui, je crois, est disponible pour tout type d'événements d'entreprise ou autres fêtes de famille. N'hésitez pas à contacter Naked City pour faire de votre mariage une soirée inoubliable. Alors, à ce stade de la recette, on n'a pas encore tous les éléments pour savoir pourquoi une musique fait peur dans un film qui fait peur. Toujours sur cette question du décalage, on a vu donc deux types de décalage au sein même de la musique, donc des musiques qui finalement réussissent à faire peur même si on les écoute sans voir le film, des musiques qui sont effrayantes en elles-mêmes. On a vu aussi une musique très violente posée sur une scène qui, elle, ne l'est pas du tout, donc ça aussi, ça peut faire très très peur. Mais il existe aussi, évidemment, l'inverse, donc une musique qui ne fait pas du tout peur, qui est plutôt dans son jus du top 50, et qui sert par contre à illustrer une scène de tension totale qui va virer complètement à la boucherie. Donc là, on fait un petit tour du côté du film American Psycho, cette fameuse scène où Bateman assassine Paul Allen dans l'appartement en devisant d'abord gaiement sur le groupe Huey Lewis and the News pendant qu'il lui sort carrément le CD, puis il parle de la biographie du groupe, etc. Il va enfiler son petit imperméable, il va chercher sa hache dans le dos de Paul, il met le CD et là le massacre commence en même temps que le début du morceau qui lui par contre est hyper dansant. Donc on a à l'image cette profusion de sang, cette espèce de d'éclaboussure hyper exagérée, et puis pendant ce temps-là en fait on a une musique un peu MTV friendly qui est diffusée quoi. Donc là c'est plus du tout, on n'est plus du tout dans le présage funeste d'un morceau violent qui sert à mettre en garde des personnages sereins. Au contraire, c'est un morceau très pop et très dansant qui nous indique en fait qu'un gros psychopathe est à l'œuvre avec sa hache. Ce mec en fait de Wall Street, en apparence très bien rangé, très bien coiffé et très inoffensif pour la société moderne, qui est en fait un véritable fou furieux complètement allumé qui tue des gens dans des appartements quoi. On écoute tout de suite ce titre Hip to be Square qui porte très bien son nom.
Take punishment and had to settle down. And I'm playing it real.
Vous écoutez toujours Panoramique sur Radio Campus Paris. Nous venons d'écouter le titre « Hip to be Square » de Huey Lewis and the News. Et nous arrivons à la rubrique de Thomas Changeur des Ballades Sonores, le meilleur disquaire de Paris selon un très très grand nombre de sources hyper fiables. Il y a 15 jours, Thomas nous parlait des meilleures bandes originales de road movies. Aujourd'hui, il nous a fait une sélection minimaliste, petite mais puissante, de films d'horreur qui illustre sa passion pour le film de genre italien, mais pas que.
Attenzione al gradino, scendendo dal treno.
En tout cas, c'est ce que Dario Argento lui-même aurait dit en découvrant ce bel hommage qu'on s'apprête à écouter. On se retrouve tout de suite après.
La musique créé pour un film d'horreur devient effectivement, en tout cas dans plusieurs genres cinématographiques, mais en particulier et surtout pour le film de genre, le film d'horreur, un personnage à part entière. Vraiment, quand on pense au film d'Argento, au Jean Gallio italien, quand on pense à j'avais parlé de scène américaine, mais quand on parle quand on pense à Carpenter, quand on pense à même des films plus anciens comme Rosemary's Baby ou même qui ne sont pas des purs films d'horreur, mais on peut penser aussi à Shining de Kubrick, et puis remonter plus loin hein, avec Le Fantôme de l'Opéra, même dès les premières tentatives de peur à l'écran à l'époque du muet, c'était la musique.
Ouais, c'est une gestion du décalage, une gestion du silence qui doit guider un peu le spectateur vers l'épouvante, quoi.
Voilà, et donc c'est pour ça qu'ils sont souvent utilisés dans les musiques de films d'horreur, les claviers, les synthétiseurs et les cordes, beaucoup les cordes. Quand on s'intéresse au travail de Morricone, qui a excellé dans plusieurs genres cinématographiques, mais son répertoire peut-être le moins populaire est celui de la musique d'horreur.
Tu penses à The Thing, par exemple, avec ce bâtiment un peu...
Je ne pensais pas à celui-là. Je pensais à... Alors, le titre français, je crois que c'est Le Plumage... à des films italiens. Il en a fait beaucoup. Et justement, j'avais sorti des bacs ce matin pour vous en parler, une compilation qui est très bien faite.
Alors, fais-nous voir.
Chez Cam Sugar qui
s'intéresse. Super pochette.
Voilà, et donc c'est une compilation de thèmes italiens composés pour les films d'horreur et pas que les Gallio, mais on retrouve Morricone, on retrouve Fidenco, Cipriani. Je regardais, il n'y a pas Fridi, mais il pourrait y avoir Fridi. Il y a Bruno Nicolet, arrangeur de Morricone par ailleurs. Il y a beaucoup de monde. Et
c'est un super bel objet avec une pochette incroyable qui porte le doux nom de Paura, donc la peur en italien.
Et avec un œil, gigantesque, parce que l'œil sur les pochettes de disques, sur les affiches de films, est assez évocateur de la peur, parce que c'est ce qu'on voit. Et même si là on parle de disques donc, qu'on entend, à l'écoute de ces disques, si on a vu les films, on revoit des scènes. Et c'est marrant parce que j'ai sûrement me heurter la prononciation italienne, mais le Occhiali Neri, qui est en fait le film le plus récent de Dario Argento. Et la musique est composée par Monsieur Robotini, client et fidèle dans nos bacs pour ses musiques électroniques, et il a été invité par Argento pour composer la musique de son dernier film, et tout ça pour dire qu'il y a aussi un œil effrayé sur la pochette, et c'est la même pour un gros classique du
encore
genre
un œil.
Qui est aussi un film de D'Argento, donc il y a Suspiria, mais j'avais sorti Profondo Rosso parce que c'est une BO de Gobelin qui sont les maîtres du genre de synthé et guitare. Voilà, une musique plus lourde.
On en parle dans l'émission, ce sera Gobelin Party.
Et donc là, pareil, un œil aussi effrayé. Et puis, on parlait actu avec Robotini, mais il y a aussi énormément de labels qui éditent des musiques de films actuelles. et notamment le label Waxwork qu'on aime beaucoup dans nos bacs, et c'est eux qui éditent les BO des films de Jordan Peele. En fait, ces trois films sont immenses cinématographiquement. Get Out, Us et Nope. Et les musiques de films sont effectivement aussi des personnages à part entière. Et là, j'avais choisi Us, qui est peut-être le film le moins reconnu des trois, mais qui m'a vraiment, vraiment marqué, et la musique avec.
En tout cas, un très bel objet que vous pouvez découvrir aux Balades Sonores. On mettra la sélection sur Instagram et sur Facebook, comme d'habitude. Merci beaucoup, Thomas, pour ces recommandations.
Avec plaisir.
Et puis, à la prochaine fois.
Ah oui, bientôt.
Voilà, et vous pourrez retrouver la sélection de Thomas Changeur des Balades Sonores sur les réseaux sociaux de l'émission Panoramique. Alors, chose promise, chose due, avec cette interview de Thomas, on a le parfait prétexte pour parler du groupe de prog rock italien Goblin. Et il y a souvent eu des collaborations qui deviennent quasi familiales entre des réalisateurs et des compositeurs. On pourrait presque dire des couples de travail qu'on retrouve de film en film. Eh bien, c'est le cas avec ce groupe Goblin, qui est connu principalement pour avoir produit beaucoup de musique d'illustration de films de Dario Argento. Ils se sont chargés en fait de mettre leurs pattes psyché et toute l'utilisation des synthés, des basses funky et bizarres, des rythmiques un peu disloquées au service de l'image pour le célèbre Suspiria en 77 par exemple, et puis aussi pour le film Profondo Rosso dont parlait Thomas en 75. Je précise qu'en écoutant ces BO de films italiens, des slashers, des films d'épouvante, des films d'ambiance, on comprend pourquoi des séries actuelles comme Stranger Things puisent leur force commerciale dans une certaine nostalgie des années 80 et des années 70, parce que le synthétiseur, cet outil de fortune qui était dévolu à ceux qui ne pouvaient pas se payer des orchestres, est devenu finalement un élément central qui est célébré comme un personnage à part entière du panthéon de l'horreur. Alors oui, c'est peut-être un peu exagéré dit comme ça, mais avouez que c'est aussi un peu vrai. On écoute Goblin avec le thème principal de Profondo Rosso. Voilà, vous écoutez Panoramique sur Radio Campus Paris. On touche à la fin de cette émission. Et avant de vous laisser avec l'habituelle playlist de fin d'émission, je vous signale un bonus de taille pour celle-ci, puisque dès ce soir, vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux de panoramique.podcast un petit manuel personnalisé pour composer votre propre BO de film d'horreur. Et comme je ne suis pas bégueule, je montre l'exemple. N'hésitez pas à aller voir et à vous emparer de ce petit kit pour nous montrer ce que vous avez bricolé pour le futur film d'horreur qui lancera peut-être votre carrière. On se quitte en musique avec le thème de L'Exorciste et ses célèbres cloches entêtantes. Une musique parfaite pour insulter des gens dans sa tête quand on vit des moments difficiles, incluant le code de la route et les autres usagers. Mais aussi un extrait du film Alien, le 8e passager. Une musique idéale si vous êtes amené à vous cacher dans la soute d'un blabla bus pour payer moins cher votre trajet vers Dijon. Et puisqu'on l'a évoqué plus tôt mais qu'on n'a pas eu l'occasion de revenir dessus, on va écouter aussi un extrait du film The Thing avec Ennio Morricone, qui est l'un des seuls prestataires extérieurs auquel a fait appel John Carpenter pour illustrer l'un de ses films. Une musique idéale pour entendre battre son cœur quand on est seul face aux forces du mal. Thank you.
Thank you.
Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné quelques pistes pour écouter différemment la musique de film. N'hésitez pas à fouiner sur le métaverse de panoramique.podcast pour prolonger l'expérience avec des playlists, des focus et autres contenus associés qui vont affluer pendant les prochains jours. On se retrouve le dimanche 23 octobre sur Radio Campus Paris pour la suite de cette émission. D'ici là, portez-vous bien, commencez à préparer votre déguisement pour Halloween. Ne décrochez pas le téléphone si ça sonne chez vous après 21h et soyez curieux de toutes les musiques. Je vais m'offrir à moi-même le mot de la fin, un peu comme John Carpenter. Merci d'avoir écouté Panoramique, une émission réalisée par Jacouille La Fripouille, produite par Olympe de Gouges, animée par Jackie Kennedy et mise en musique par John Travolta. À bientôt.
C'est quelquefois des réalités qui sont intéressantes à manipuler.
Et enfin, tout ça est une question d'imagination et de mémoire pour moi.
Panoramique, une émission sur la musique de film, un dimanche sur deux à 21h sur Radio Campus Paris.
Panoramique. Panoramique. Panoramique.
L'émission qui regarde la musique.
Panoramique.
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 Panoramique.